Vivre FM podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Annelise Farcoa.
Vous êtes en situation de handicap et à la recherche d'une formation en alternance ou d'un stage. Vous êtes motivé, vous souhaitez rejoindre une grande entreprise de l'industrie. Alors restez bien avec nous. Ce matin, dans la vie des entreprises, nous parlons du salon Andy Rencontre qui se déroulera le mercredi 11 mai prochain à Paris. Nous en parlons dans la vie des entreprises avec Marine Plévin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coordinatrice du projet Salto. Vous allez tout au long de l'émission nous donner toutes les informations pratiques sur cette journée du 11 mai et nous préciser à qui s'adressent ces offres de stage et de formation en alternance. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie ce matin de Marine Plévin, coordinatrice du projet Salto. Et vous êtes avec nous ce matin, Marine, pour nous parler du salon Andy Rencontre qui se déroulera le 11 mai prochain à Paris dans le 20e. Mais avant cela, Marine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de LB Développement? Quelles sont ses principales activités?
Alors, LB Développement, c'est à la fois un cabinet conseil en matière d'emploi et d'intégration de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que nous conseillons les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique handicap. Et nous sommes également un centre de formation dédié uniquement à la formation des personnes en situation de handicap. Nous formons plus d'une centaine de personnes par an par la voie des contrats de professionnalisation. Donc voilà, nous formons en contrat de professionnalisation ces personnes, notamment sur les métiers de la vente et de la relation client.
Alors concernant la façon dont vous travaillez avec les entreprises, vous travaillez sur tous les domaines de la loi, c'est-à-dire recrutement, maintien dans l'emploi, tous les thèmes particuliers.
Exactement. On travaille sur différents points, sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi, où on peut vraiment intervenir pour apporter un soutien dans le cadre de situations spécifiques. Et puis, sur tout ce qui est sensibilisation, très largement. Donc, on travaille sur des supports de communication, sur mesure, sur des événements, vraiment dédiés à chaque fois aux besoins de l'entreprise, à sa culture, de manière à toucher au mieux les collaborateurs, les managers, toutes les personnes qui vont faire qu'une politique handicap va être efficace, va fonctionner.
Alors, on a l'impression quand même que depuis quelques années, les entreprises ont bien pris en compte cette question de sensibilisation des équipes. C'est pratiquement acquis. Ce qui reste compliqué, plus compliqué, c'est le maintien dans l'emploi. Est-ce que vous le ressentez de la part des entreprises ou est-ce qu'il faut tout le temps continuer la sensibilisation?
Je suis d'accord avec vous. J'ai aussi l'impression que la sensibilisation, il y a une professionnalisation vraiment importante dans les entreprises. Cependant, on a l'impression que quand même la sensibilisation, elle doit toujours perdurer parce que les équipes se renouvellent, parce qu'il y a, voilà, il y a sans cesse des mouvements dans la vie des entreprises. Et donc, la sensibilisation reste quand même un élément clé pour nous de la politique handicap.
Et concernant les types de handicap, on a aussi l'impression que maintenant les entreprises savent à peu près prendre en compte tout ce qui est handicap moteur et même handicap sensoriel. L'aménagement des postes, elles savent le faire. Ça reste compliqué concernant les handicaps psychiques. On vous en parle beaucoup de ces difficultés-là.
Oui, effectivement, ce sont des situations qu'on nous rapporte et sur lesquelles on peut être amené à nous solliciter, où il y a effectivement plus de difficultés de la part des entreprises. Et effectivement, on est souvent sollicité sur des situations de personnes qui sont en souffrance dans l'entreprise et pour lesquelles il y a un accompagnement qui doit être nécessaire, qui doit être mis en place.
Et les managers ne savent pas vraiment comment faire, restent encore un petit peu démunis face à ce type de handicap.
Oui. Tout à fait.
Alors, il y a aussi le problème des personnes qui souffrent de maladies invalidantes. On pense à la sclérose en plaques, on pense au cancer. On sait qu'on va travailler de plus en plus tard. Les traitements, surtout en parlant du cancer, sont de mieux en mieux supportés par les personnes qui peuvent, la plupart du temps, quand elles le veulent, quand elles en ont la possibilité, continuer à travailler. Mais ce n'est pas forcément facile pour les entreprises de maintenir dans l'emploi une personne qui a des traitements assez réguliers, soit de temps en temps dans la semaine, soit tous les jours quand on a un traitement de radiothérapie. Comment elles font, les entreprises?
Mais c'est vrai que ça pose des difficultés dans le sens où là on touche à la notion de fatigabilité, de personnes qui sont fatigables, mais une personne fatigable et une autre personne ne vont pas vivre leur traitement de la même façon, même si elles suivaient le même traitement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter aux besoins de la personne, et on n'est pas toujours en mesure d'anticiper ces situations-là. Donc en fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est vraiment un travail d'adaptation un peu au jour le jour que les entreprises doivent faire en fonction de ce que du vécu de la personne, de ce qu'elle est capable de faire. Et voilà, que finalement, des choses programmées, ça peut être bien d'anticiper, d'imaginer que des absences à ce moment-là, ça peut convenir, etc. Mais il faut aussi savoir toujours s'ajuster, à mon sens, au jour le jour, en fonction des besoins de la personne et de son état.
Et c'est là la difficulté du rôle du manager, qui a des contraintes financières, qui doit respecter des délais et qui doit aussi veiller au bien-être de ses équipes.
Oui, tout à fait.
C'est vrai qu'on en parle de plus en plus de bien-être au travail. Alors, si on parle du dispositif Salto, il a été créé par LB Développement.
Alors, en fait, c'est un projet qui date de 2008 et qui, à la base, était à l'initiative de l'AGFIP, de Schneider Electric et du CESI. C'est un centre de formation qui est implanté, qui est plutôt développé autour des métiers industriels et aussi de l'informatique. Donc ces trois acteurs effectivement se sont réunis autour de constats communs, notamment que les métiers de l'industrie sont souvent peu connus de la population en général.
Absolument.
Donc voilà, mais qu'il y a des opportunités d'emploi et d'évolution dans l'industrie sur des métiers sur lesquels on se positionne pas forcément. Donc un des objectifs de Salto est aussi de faire connaître ces métiers.
Alors justement, quand on parle métier de l'industrie, ça reste quand même très flou. Vous pouvez donner des exemples ?
Ça peut être un technicien de maintenance, ça peut être effectivement un électrotechnicien, ça peut être quelqu'un qui va travailler en bureau d'études et qui va faire de la conception en bureau d'études dans l'automobile. C'est extrêmement vaste, hein. C'est là aussi où on se rend compte que c'est aussi un champ extrêmement, extrêmement vaste.
Donc, ce sont des métiers très techniques, il faut des formations très spécifiques.
Assez pointues, qui peuvent être accessibles à un niveau d'études qui peut rester infra-bac ou bac plus 2. Donc ça, c'était un point aussi qui était intéressant, c'était de se dire, c'est vraiment l'ancrage de Salto, c'est vraiment de se dire, on peut repérer des personnes qui ont un potentiel et qui vont ensuite pouvoir, qu'on va pouvoir repérer et faire monter en compétences grâce à l'alternance. C'était vraiment le constat qu'ont fait ces acteurs et qui voulaient monter un projet qui puisse fédérer des entreprises, que la GFIP puisse soutenir pour vraiment favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap par la voie de l'alternance dans l'industrie.
Parce que ce sont des secteurs, c'est un secteur qui marche bien, ce sont des secteurs qui recrutent, ce sont des entreprises qui recrutent actuellement.
Oui, ce sont à la fois des entreprises qui recrutent, à la fois des entreprises qui ont une vraie culture de l'alternance. Et ça, c'est un point fort parce que de la même façon, ça, accueillir un alternant, c'est particulier, il y a un rythme à gérer, etc. Et ces entreprises-là, enfin bon nombre de ces entreprises industrielles, ont vraiment cette culture-là. Donc ça, c'était un point fort aussi. Et effectivement, bon nombre d'entre elles aussi sont investies dans le handicap. Donc il y avait vraiment un certain nombre de... comme un terreau, je dirais, fertile pour pouvoir mettre en place ce type de projet.
Alors, ces trois structures ont donc contacté des entreprises. Combien y en a-t-il maintenant ?
Alors, aujourd'hui, on en a à peu près une petite vingtaine, aujourd'hui, qui sont effectivement partenaires du projet Salto.
Donc, tout ça a commencé en 2008.
Exactement.
Et vous avez décidé... Alors, vous avez fait quoi après, une fois que les entreprises étaient regroupées entre elles ?
Effectivement, c'était déjà de cerner leurs besoins, de bien comprendre leurs attentes en matière d'offres, en matière aussi de candidatures. Et ensuite, nous, on a développé tout un réseau de partenariats en France, puisque le projet Salto, il est développé dans différentes régions de France. L'idée, c'était vraiment de pouvoir développer ce projet pour faciliter le positionnement de candidats sur des offres qu'on a par le biais de ces entreprises, qu'on reçoit et qu'on diffuse dans toute la France auprès de nos partenaires. Et puis aussi de pouvoir diffuser des candidatures spontanées, puisque ça, c'est quelque chose qui nous semblait vraiment important. C'était de ne pas attendre d'avoir une offre qui corresponde à un candidat. Si on reçoit une candidature qui nous semble vraiment intéressante et qu'on le projet de formation est validé, etc., l'idée, c'était de pouvoir la positionner, envoyer cette candidature à nos entreprises partenaires et après, charge à l'entreprise de pouvoir se saisir de la candidature. Parce qu'en fait, on se rend compte souvent qu'une bonne candidature peut aussi créer un besoin. C'est-à-dire que... elle peut être, si le chargé de mission handicap, qui est nous, notre interlocuteur, reçoit une candidature et qu'il estime qu'elle est intéressante, qu'elle peut coller avec les métiers ou avec des besoins, il va pouvoir s'en faire l'émissaire entre l'ambassadeur auprès des managers et aller la présenter, aller la valoriser, etc. Et que là, ça peut se faire sur des offres qui parfois n'ont même pas été diffusées ou on sait seulement qu'il y avait potentiellement un besoin, etc.
Mais voilà.
Donc, c'est là que le projet prend vraiment son sens.
Alors tout au long de l'année, c'est-à-dire que tout au long de l'année, on peut vous envoyer un CV. Tout au long de l'année, les entreprises peuvent vous envoyer des propositions d'offres. Ça marche sur votre site directement?
Tout à fait, ça marche vraiment toute l'année par ce biais. Surtout, on nous contacte beaucoup par mail et puis ou par téléphone. Mais effectivement, ça marche toute l'année. Alors bien sûr, il y a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plus fort parce que voilà, on est sur l'alternance et les stages. Et bon, l'alternance, beaucoup de formations, pas toutes, mais beaucoup de formations commencent en septembre. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la période d'alternance où les entreprises ont beaucoup d'offres et où on reçoit beaucoup de candidatures parce que là, on a les candidats qui sont en train de finaliser leur projet, d'aller voir les centres de formation et de chercher une entreprise pour leur alternance qui commence en septembre.
Alors, Salto organise Andy Rencontre le 11 mai prochain pour permettre, pour faire un focus sur tout ça, pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver un stage ou une formation en alternance. Vous restez avec nous dans la suite de l'émission. Vous nous donnerez toutes les informations sur cette manifestation. À tout de suite.
La vie des entreprises. Jusqu'à midi sur Vivre FM. Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous le savez, nous accueillerons notre coach qui répondra à vos questions sur l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes de retour dans la vie des entreprises. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes en compagnie de Marine Flévin, coordinatrice du projet Salto. Et nous parlons du salon Andy Rencontre organisé par ce dispositif. Alors, Andy Rencontre, on l'a dit, est un salon spécialisé pour les personnes en situation de handicap qui recherchent un stage ou une formation en alternance.
Tout à fait, c'est ça.
C'est la première fois que vous l'organisez ?
Non, ça fait plusieurs années, près de 5 ou 6 années qu'on organise cet événement en Île-de-France. Il y en a eu quelques-uns aussi en province, mais celui d'Île-de-France reste vraiment l'événement récurrent qu'on organise chaque année au milieu de la campagne d'alternance, en gros au mois de mai à chaque fois.
Il y a un petit bilan à faire, c'est-à-dire que vous accueillez combien de personnes trouvent des stages, combien de personnes sont embauchées à la suite de ces stages?
Alors, effectivement...
C'est difficile à quantifier.
Oui, hein. C'est pas toujours facile à quantifier parce qu'il y a des candidats qui viennent au forum, qui sont déjà connus de Salto et parfois connus des entreprises. Donc, entre le projet Salto dans son ensemble et le forum, c'est pas toujours facile de différencier. Mais en gros, c'est un événement que nous, on veut vraiment convivial et à taille humaine. On n'est pas dans des forums de grande ampleur. On préfère vraiment privilégier vraiment la qualité des candidatures et des rencontres à la quantité. Donc, on va dire qu'on reçoit en général une quarantaine de candidats chaque année qui viennent au cours de l'après-midi, qui rencontrent en général entre 10 et 15 entreprises. Et puis, alors, sur le bilan, ça va être difficile. On va dire que... à l'issue du forum, on ne sait jamais, puisque c'est la première rencontre et c'est après que les recrutements vont se finaliser. Ce qui est évident, c'est qu'en général, les entreprises disent toujours avoir identifié 3-4 profils qui peuvent vraiment convenir. On est dans ces eaux-là en général. Et on va dire qu'en général, il y a 1-2 recrutements par entreprise qui se finalisent. Donc en gros, on est sur 20-25 recrutements.
Oui, c'est quand même pas mal, effectivement, parce que ça ne sert à rien que les entreprises soient complètement envahies d'une centaine de CV et ne sachent pas comment les traiter. Alors, Les personnes handicapées, on le sait, ont des difficultés à trouver des entreprises accueillantes, mais l'inverse existe aussi. Les entreprises, dont la plupart sont quand même de plus en plus motivées pour intégrer des personnes handicapées, ne savent pas toujours où les chercher. Oui. Les postes sont ouverts à des personnes handicapées, mais où est-ce qu'elles sont, les personnes handicapées ? C'est ça. Surtout quand on parle de handicap invisible.
Oui. Tout à fait. C'est vraiment ce à quoi, on travaille au quotidien, à se rendre visible des personnes handicapées en général, puisque on se rend bien compte que on a du mal à trouver des personnes qui aient un projet de formation en alternance et qui correspondent aux attentes des entreprises. Donc, on est vraiment, nous, dans ce travail-là, de travailler aussi avec des missions handicap d'université, avec des associations étudiantes, avec le réseau aussi, bien sûr, Cap Emploi, Pôle Emploi, des associations spécialisées, mais on est aussi vraiment, on essaye aussi de se rendre visible et de capter des candidatures de personnes handicapées ou d'étudiants qui sont en recherche autonome finalement et qui ne sont pas dans les circuits classiques, de manière à pouvoir nous leur donner aussi un coup de pouce pour leur recherche.
Alors, on le sait, les personnes qui sont en situation de handicap, quelquefois, ont été éloignées de l'emploi pendant un certain temps, quand elles ont eu un accident, une maladie. Vous les aidez ? Ça fait partie du boulot de Salto de les aider à se présenter à un entretien, à refaire un CV éventuellement, à parler de son handicap ?
Alors nous, on a un rôle, on apporte un soutien, effectivement. Après, on n'est pas, on fait pas un accompagnement au long cours. On ne reçoit pas forcément les personnes physiquement dans nos locaux, etc. Par contre, effectivement, on peut apporter un soutien. Déjà, ce qu'on fait en premier lieu, c'est de se mettre en lien avec le référent de parcours s'il y en a un, pour mieux connaître le profil de la personne et voir en quoi on peut l'aider. Mais on a beaucoup de personnes qui sont en recherche autonome et qui ne s'appuient pas forcément sur un référent, un conseiller, etc. Donc là, notre travail, ça va être effectivement de pouvoir voir ce qu'on peut apporter pour que le projet se finalise. Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'effectivement, le CV, il y a des éléments à revoir dans la manière de le présenter parfois des parcours, des reconversions,
comment
des ruptures,
expliquer un trou, dans un CV.
Trous dans le CV, etc. Donc ça, on peut tout à fait apporter, on apporte ça en fonction des besoins, mais on va vraiment apporter cette aide aux candidats. De la même façon, parfois, ils n'ont pas encore sauté le pas de contacter des centres de formation. Donc si ils ont un projet de formation, mais qui n'est pas encore tout à fait finalisé, on peut les aider à les orienter et les orienter vers des centres de formation qu'on a identifiés, qui proposent la formation qu'ils recherchent. Et c'est encore mieux si on sait que le centre de formation, il est plutôt accueillant, qu'il a l'habitude d'accueillir des personnes en situation de handicap, parce que ça aussi, c'est quelque chose de nature à rassurer le candidat. Donc voilà, on va faire ce travail. C'est pas un accompagnement long cours, mais vraiment du sur-mesure en fonction des besoins. On va pouvoir faire effectivement ce travail-là.
Et les aider à parler de leur handicap face au recruteur, parce que c'est pas forcément facile et ça ne sert à rien d'arriver en disant j'ai telle difficulté. Il faut surtout parler de ses compétences. Hein. Ouais. C'est ça qui intéresse les recruteurs de toute façon.
Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et parfois, il y a des questions qui viennent de la part des candidats et auquel cas, on y répond sans difficulté. De toute façon, on leur pose des questions toujours puisqu'on accompagne la candidature. Nous, quand on transmet les candidatures, on accompagne le CV toujours d'une fiche détaillée qui détaille le projet de la personne, qui donne tout un tas d'informations et notamment qui parle des contraintes liées à la situation de handicap. Donc, on a toujours, on essaye de travailler avec le candidat aussi pour qu'il soit bien en mesure de pouvoir parler des contraintes éventuelles qui sont liées à sa situation de handicap et pas parler spécifiquement de son handicap. Donc ça, on fait ce travail-là avec eux. Et puis, sur l'Handi Rencontre, au moment de l'événement, en fait, on a un petit stand de coaching dans lequel on a une personne de chez Salto qui travaille sur le recrutement, qui apporte des conseils. Donc ça, c'est un élément aussi de nature à rassurer les candidats pendant le forum.
Alors, vous ne bougez pas, surtout, on continue à parler des informations pratiques concernant la journée du 11 mai prochain que vous organisez à Paris. Mais pour l'instant, on accueille notre coach. Une question ou une réponse, ce sont les 3 minutes pour l'emploi. À tout de suite. Jérôme nous a laissé un message sur notre page Facebook. Il est en recherche d'emploi et en situation de handicap. Il nous demande comment repérer les entreprises qui recrutent et qui n'ont rien contre les travailleurs handicapés. Frédéric Lotto, vous êtes le producteur de Handi Today. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Jérôme ?
Alors Jérôme doit repérer les entreprises qui sont dites handi accueillantes, qui sont parfois logotées comme telles d'ailleurs, que ce soit sur leur site ou sur leur présence physique lors de forums de recrutement. Ensuite, Jérôme peut aller sur ce qu'on appelle les job boards, les sites d'annonces, les sites d'offres d'emploi, et ils sont nombreux. Et en général, ces sites ont tous ajouté depuis assez longtemps maintenant une case RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour les candidats, et puis aussi une case RQTH du côté des offres qui sont publiées par les entreprises. Ce qui fait que quand vous allez sur des sites comme Monster, par exemple, vous avez carrément directement la liste des entreprises qui publient des offres destinées, entre autres, aux travailleurs en situation de handicap. Donc c'est relativement simple de les repérer. Et puis, troisième chose pour Jérôme, c'est d'aller aussi sur des sites spécialisés comme handicap.fr, par exemple, qui proposent, là, pour le coup, exclusivement des offres qui sont destinées aux travailleurs en situation de handicap. Donc ce n'est pas très difficile de les repérer. Ensuite, en tapant sur Internet, il peut également voir si les entreprises qu'il vise ont une mission handicap. C'est simple, en allant sur le site général de l'entreprise, en tapant dans le moteur de recherche mission handicap, on tombe assez vite sur les contacts de mission handicap et le rôle et ce qu'elle fait dans l'entreprise.
Oui, là, vous me parlez des grosses entreprises. Les petites ou moyennes entreprises n'ont pas forcément de mission handicap et n'ont pas forcément eu aussi l'idée de mettre en valeur le fait qu'elles soient handi accueillantes.
C'est vrai que toutes les entreprises ne sont pas dotées de la même manière, avec des équipes, avec des moyens et on va dire une publicité ou une communication autour du fait qu'elles accueillent des travailleurs en situation de handicap. Après, il faut se dire quand même que tous les emplois sont théoriquement ouverts aux personnes en situation de handicap, donc que ce soit dans les grosses ou les petites entreprises. Et qu'à un moment, il faut aussi simplement postuler et dans le courant des discussions, quand on a la chance d'avoir un entretien, demander si ça ne gêne pas l'entreprise d'accueillir quelqu'un qui a une reconnaissance de travailleur en situation de handicap.
Marine Flévin, on peut comprendre que ce soit difficile de se présenter dans un salon spécialisé dans le recrutement des personnes handicapées de la part d'une personne handicapée qui peut-être n'a pas encore, qui vient de découvrir son handicap, qui n'a pas encore vraiment assumé cette difficulté. Et pourtant, c'est important, c'est intéressant parce qu'on rencontre vraiment des entreprises qui sont handi accueillantes, comme le disait notre coach.
Oui, tout à fait, effectivement. Ça peut même être un premier, pas, plutôt une première étape facilitante pour une personne, puisque là, on se présente dans un cadre où les recruteurs qui sont présents savent que les personnes qui viendront seront des personnes handicapées. Donc, ils sont ouverts, très particulièrement ouverts, et donc ça peut être très facilitant.
Donc le salon Handi Rencontre aura lieu le 11 mai à Paris dans le 20e. Vous nous donnerez dans la suite de l'émission toutes les informations pratiques pour s'inscrire, parce que vous allez préciser qu'il faut vraiment s'inscrire et y participer. Mais pour l'instant, on fait une pause en musique, à tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
De retour dans la vie des entreprises, toujours en compagnie de Marine Flévin, coordinatrice du projet Salto. Et nous parlons ce matin du salon Handi Rencontre qui va se dérouler le 11 mai à Paris dans le but de mettre en relation des entreprises de l'industrie et des personnes en situation de handicap qui cherchent un stage ou une formation en alternance. Concrètement, Marine, comment ça se passe ? On peut venir comme ça les mains dans les poches sur ce salon ou est-ce qu'il faut s'inscrire avant ?
Alors effectivement, l'inscription est conseillée. Nous, on conseille aux candidats de pouvoir nous contacter au préalable pour nous présenter leur projet de formation et qu'on puisse éventuellement leur apporter une aide pour finaliser leur candidature. L'intérêt, c'est qu'en fait, les candidats qui viennent aient déjà un centre de formation identifié, parce qu'en fait, ça va rendre beaucoup plus concrète leur candidature et ça sera vraiment plus intéressant par rapport aux recruteurs. Ça peut vraiment leur permettre de se démarquer et de pouvoir rendre bien claire leur candidature auprès des recruteurs.
Alors, on s'inscrit où ?
Alors, on s'inscrit en nous envoyant un mail à salto@lbdeveloppement.com ou en nous contactant sur notre portable Salto qui est le 06 27 40 69 14.
Et donc, les candidats peuvent vous poser toutes les questions, c'est-à-dire effectivement des questions à la fois sur les postes, à la fois sur les entreprises qui seront présentes, à la fois sur la façon dont il faut se présenter un CV, est-ce qu'il faut une lettre de motivation, etc.
Exactement, ils vont pouvoir nous poser toutes les questions. On peut même leur envoyer une liste des offres qu'on a à jour, même si elle ne sera jamais exhaustive. Ça peut aussi leur donner des idées là-dessus. Et ensuite, bien sûr, on va leur donner tous les conseils nécessaires, c'est-à-dire de venir avec des CV en quantité. En général, les candidats n'en prévoient jamais assez. Donc, voilà, leur donner ces conseils-là, leur donner des conseils aussi sur leur présentation, sur comment ils doivent venir, leur préciser les horaires, répondre à toutes leurs questions de manière à ce qu'ils puissent préparer leur et leur handi-rencontre. Ça, c'est vraiment important, cette idée que venir à une handi-rencontre comme ça, ça se prépare. On regarde les sites des entreprises, on voit ce qu'elles font. Comme ça, quand on va les voir, on est déjà en mesure de dire « j'ai vu vos métiers, ça m'intéresse, ce que vous faites, etc. » C'est autre chose que de se présenter en visiteur et de dire « vous faites quoi dans cette entreprise ?» Voilà, c'est tout un positionnement. Donc nous, on va vraiment apporter cette aide pour les préparer de manière à ce qu'ils mettent le plus en valeur leur candidature et leur projet.
Alors, on a eu pas mal de questions de nos auditeurs sur la page Facebook de la radio et également sur notre site internet. Il y a une question de Clémentine de Nanterre qui nous dit qu'elle est en fauteuil roulant et elle se demande si sur la photo de son CV, son handicap doit apparaître ou est-ce que c'est confortable pour un recruteur de savoir de quel handicap souffre la personne qui doit recevoir ou est-ce que c'est plutôt discriminant?
C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses qui pourraient être pertinentes. À mon sens, en tout cas, dans le cadre de notre événement, ça ne me semble pas indispensable de le présenter. Là où ça peut être intéressant et important, c'est si on projette d'avoir un entretien dans les locaux de l'entreprise. Là, il va falloir le préciser, pas forcément sur le CV, mais par oral ou alors dans le courrier, dans le mail, puisque faut pouvoir anticiper la possibilité d'accéder aux locaux de manière adéquate. En revanche, par rapport à notre handi-rencontre, nous, elle est totalement le lieu dans lequel est organisé l'événement et tout à fait accessible aux personnes à mobilité réduite.
Alors justement le lieu, parce que c'est vrai que pour l'instant, ce n'était pas encore indiqué.
Alors effectivement, le forum, il se passe à la Résidence internationale de Paris, qui est située dans le 20e, 44 rue Louis Lumière. Donc voilà, c'est un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le salon a lieu toute la journée?
Il a lieu de 14h à 17h. Donc voilà, uniquement l'après-midi. Accès métro aussi, ligne 3, porte de Bagnolet ou ligne 9, porte de Montreuil. On est vraiment entre les deux.
Alors, un stage ou une formation en alternance, c'est très intéressant pour mettre ou remettre un pied dans l'emploi, on l'a dit, pour découvrir un métier. Peut-être quand on a besoin de se reconvertir, quand on a été éloigné de l'emploi, on l'a dit aussi pendant un certain temps. C'est parfois le cas quand on a été malade et quand on a eu un accident. Et c'est important de dire, de préciser que les formations en alternance sont accessibles à tout âge quand on est en situation de handicap, contrairement aux personnes valides qui ont une limite d'âge de 26 ans.
Oui, effectivement, pour les contrats d'apprentissage, en fait, pour les personnes valides, les contrats sont limités aux moins de 26 ans. Et effectivement, le statut de personne handicapée fait qu'il n'y a plus de limite d'âge pour le contrat d'apprentissage. En revanche, le contrat de professionnalisation, lui, il reste possible également pour les jeunes de plus de 18 ans et tout type de public. Donc effectivement, c'est très accessible.
Ça veut dire que ce salon handi-rencontre ne s'adresse pas uniquement aux jeunes.
Pas du tout.
Quel que soit l'âge, on peut venir, on peut participer, on peut s'inscrire, on peut envoyer un CV et découvrir peut-être un nouveau métier.
Tout à fait. Vraiment, il s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais jeunes et adultes. Effectivement, on a des personnes qui sont en formation initiale, on a d'autres personnes qui sont en reconversion, qui repartent sur un nouveau métier et donc une nouvelle formation. Donc ça, effectivement, c'est très ouvert à un large public. Le dénominateur commun, c'est l'alternance ou la recherche de stage.
Alors, est-ce qu'un contrat en alternance ouvre les mêmes droits qu'un contrat classique pour la personne ?
Alors, les mêmes droits...
C'est-à-dire, est-ce qu'on a droit à une mutuelle? Est-ce qu'on a droit à ce genre de choses?
Alors, effectivement, en tant que...
Quand l'entreprise la propose.
Oui, tout à fait. En tant qu'alternant, on est considéré comme salarié de l'entreprise. On a un contrat de travail et donc, effectivement, on bénéficie des mêmes droits que les salariés Effectivement.
Alors, vous l'avez dit, il y a deux formules hein, en alternance. Il y a la professionnalisation et l'apprentissage. Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, la différence, elle peut se situer à la fois sur la nature, sur la formation dispensée, puisque sur l'apprentissage, on est uniquement sur des formations diplômantes, alors que sur la professionnalisation, on peut être sur du diplômant et également sur du qualifiant. Il y a un point qui est vraiment important, c'est que effectivement, pour les candidats, la différence majeure, puisque en tant que personne handicapée, ils ont accès aux deux contrats. La différence majeure va être financière, puisque le contrat de professionnalisation est un petit peu mieux rémunéré. La rémunération hein, dépend de l'âge et du niveau de diplôme, mais un petit peu mieux rémunéré. Donc, ça peut faire la différence. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre d'entreprises préfèrent l'apprentissage. Donc, voilà, il y a un dilemme à ce niveau-là. Le choix du contrat doit être réfléchi entre à la fois les implications financières que ça peut avoir, mais aussi l'attractivité du contrat, puisque vraiment les entreprises préfèrent l'apprentissage, puisque mieux aider au niveau des aides de l'État et puis de celles que les entreprises peuvent avoir de la GFIP, et aussi moins de lourdeur administrative.
Ça se négocie, ça, lors du recrutement, ou est-ce que l'entreprise annonce tout de suite, ben voilà, ça c'est un contrat en apprentissage, ça c'est un contrat de professionnalisation?
Alors, je dirais qu'il y a des entreprises qui expliquent d'emblée qu'elles sont, elles préconisent plutôt l'apprentissage. Maintenant, on se rend compte que il peut y avoir chez certaines entreprises une certaine souplesse. Quand il y a un profil vraiment d'une personne en situation de handicap qui plaît, la possibilité d'essayer de faire de la professionnalisation. Voilà, ça va être, il y a une marge où effectivement on peut essayer de négocier et de trouver un terrain d'entente pour que ça colle.
On a une idée du taux de transformation en CDI après un contrat en alternance ? C'est difficile. Hein.
Oui, c'est assez difficile parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement, de la conjoncture en premier lieu, de comment va se passer l'alternance, hein, parce que ça, c'est une réalité.
Mais si le candidat lui-même va se plaire.
Exactement. Si le candidat a envie de poursuivre une formation, ce qui arrive aussi. Donc là, est-ce qu'il peut la poursuivre dans l'entreprise ou pas? Puisque parfois, au bout d'un bac plus deux, on a envie d'enchaîner sur une licence professionnelle, sur un bac plus 3 ou sur un master. Donc du coup, voilà, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. J'aurais du mal à parler à pouvoir donner un taux de transformation là, parce qu'à chaque fois, chaque situation est vraiment bien spécifique.
Mais en tout cas, ça arrive dans une grande majorité des cas de toute façon. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, au-delà de la transformation, ça permet en fait, l'alternance permet d'avoir une expérience conséquente au sein d'une entreprise. Alors nous, on travaille plutôt avec des grandes entreprises, ce qui sur un CV de toute façon est vraiment, vraiment, vraiment très, très valorisant de pouvoir valoriser 1 an, 2 ans d'expérience alors qu'on a fait une formation, alors même qu'on était en formation. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt de l'alternance pour les candidats.
Alors, on arrive au terme de notre émission, mais je voudrais que vous rappeliez les informations pratiques et concrètes. Donc, c'est le salon Andy Rencontre va avoir lieu le 11 mai.
Tout à fait. Donc, c'est à la Résidence internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière, à Paris dans le 20e. Et puis, vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous contacter pour vous inscrire. Donc, en nous envoyant un mail à salto@lbdeveloppement.com. Et puis, ou en nous contactant par téléphone au 06 27 40 69 14. Et le forum se tient de 14h à 17h.
Donc, c'est un forum qui s'adresse aux personnes en situation de handicap. Il faut qu'elles aient la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Voilà, tout à fait.
Impérativement. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Jamal, d'avoir réalisé cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de la radio vivrefm.com. Rubrique La vie des entreprises, toutes les informations seront également sur notre site. Très belle journée à tous à l'écoute des programmes de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite.
Vivre FM, podcast.